Bonsoir à tous, chers amis. Soyez les bienvenus ici, chez vous, chez la salle virtuelle de votre institut culturel Quetzalcoatl. Nous allons parler aujourd'hui de thèmes très intéressants qui sont le bonheur, la liberté et la paix. Ce sont de très jolis mots, n'est-ce pas? Très souhaitables, pour nous tous, mais très méconnus, ainsi que la forme, les techniques et les clés qui nous permettraient de les obtenir véritablement. Nous allons aborder chacun de ces thèmes en y mettant beaucoup d'attention pour essayer de capturer et de comprendre la façon dont nous pouvons expérimenter, arriver à ce qui puisse se manifester dans notre vie, ces mots si merveilleux. Commençons, chers amis, par le bonheur. Parlons de le bonheur. Nous luttons tous dans notre vie. Nous travaillons intensément, nous passons notre temps à rechercher ce bonheur. Et malgré tout ce travail que nous faisons, tant d'heures passées à faire de grands efforts en cherchant dans les livres de ci, de là, et en faisant mille choses. Mais nous ne sommes pas arrivés à ce que nous appelons le bonheur. Ce bonheur est, comme on dit, un casse-tête. Ce bonheur, nous ne l'avons jamais expérimenté véritablement, ressenti véritablement, et pourtant nous le désirons tellement. Nous le cherchons même si nous ne savons pas comment le chercher. Nous sommes remplis d'amertume, de désespoir, d'angoisse. Nous avons des problèmes, nous nous confrontons à des obstacles tout au long de notre vie. Mais nous avons toujours l'espoir que nous trouverons un jour finalement ce bonheur tellement souhaité. Même si nous avons autant d'amertume aujourd'hui, tant de problèmes, tant de difficultés, tant de souffrances et de peines, nous avons très peur de nous perdre la vie. Nous nous accrochons à ces douleurs et ces souffrances et nous ne savons pas où trouver ce bonheur si désiré. Malheureusement, la plus grande partie de l'humanité ne connaît pas la psychologie révolutionnaire. Cette psychologie de l'autoconnaissance, cette psychologie de l'éveil, l'éveil de la conscience. Si nous savions les moyens, les méthodes d'autoobservation psychologique, de souvenir de soi, de la transformation des impressions, d'empathie, de pouvoir nous mettre à la place des autres, ce serait bien différent. Nous serions différents. Malheureusement, nous ne connaissons pas toutes ces techniques, toutes ces clés. Nous vivons dans la douleur et lamentablement, la seule chose à laquelle on pense, c'est survivre. Survivre dans cet océan de problèmes qu'il y a dans le monde. Des problèmes sociaux, économiques, des problèmes politiques, des problèmes religieux, des problèmes de toutes sortes. Et nous ne trouvons pas le bonheur. Nous le recherchons tellement et nous ne l'obtenons pas. Nous confondons les plaisirs sensuels avec le bonheur. C'est une chose que nous confondons beaucoup. Mais plus le plaisir est grand, le plaisir sensuel, plus la douleur est importante. Le plaisir n'est pas le bonheur, chers amis. Les douleurs les plus insupportables, les douleurs les plus horribles ont toujours été précédées par des plaisirs les plus grands. Le plaisir n'est pas le bonheur. Les danses, les fêtes, les orgies, les bubris ne nous apportent pas le bonheur. Un peu plus tard, après tout cela, arrive la souffrance, arrive la douleur, la repentance. Il suffit de boire une ivresse. C'est la conséquence d'un plaisir important, mais cela ne nous donne pas le bonheur. Cela ne comble pas les anxiétés de notre âme. Il y a des moments où nous pensons que nous sommes heureux. Et nous croyons que c'est ça le bonheur. Et nous voilà contents, passionnés. Nous disons partout que nous sommes heureux, que nous sommes heureux. Nous pleurons de joie. Quelques mois passent, peut-être quelques années, et d'arrive. Ensuite, les déceptions, les problèmes, les difficultés. En fait, l'amour est une chose et la passion une autre. La plus grande partie de nous vivons de façon passionnée et cette passion ne nous donne pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Quelquefois, lorsque nous sommes vieux, lorsque l'on est âgé, tous ces plaisirs de la jeunesse nous semblent dérisoires. Et nous disons qu'ils n'ont aucune importance, mais Si on nous redonnait un peu de jeunesse, on dirait très certainement toutes autres choses, de ces danses, de ces fêtes, etc. Que nous tensions ou non, que nous tombions amoureux ou pas, que nous soyons passionnés ou pas, de toutes les façons, nous n'avons pas trouvé le bonheur. Le bonheur n'est pas dans la passion. Il est dans l'amour véritable, oui. Mais nous ne connaissons pas cela qui s'appelle l'amour. D'autres voudraient trouver le bonheur dans l'argent. La plupart d'entre nous pensons que s'ils gagnaient à la loterie, il serait immédiatement très heureux. Pas de problème. Hop. Ce prix, ce concours qui existe pour gagner de l'argent, si nous étions les héros gagnants, nous serions héros, n'est-ce pas? Nous pensons tout cela. Cependant, et c'est la cruelle réalité des faits, mes chers amis, c'est qu'il y a des personnes qui gagnent la loterie et qui changent du jour au lendemain leur situation économique, oui, mais qui ne sont pas heureux pour autant. Nous n'arrivons pas à connaître le bonheur. L'argent est nécessaire, oui, bien sûr, pour avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et s'abriter, mais il ne nous donne pas le bonheur. Voyez, nous autres les hommes, nous voulons une femme idéale, une princesse comme dans le livre des Mille et une Nuits, une femme extrêmement belle, dotée de nombreuses vertus avec beaucoup de dons. Nous imaginons pouvoir avoir un partenaire ainsi, mais lorsque l'on se marie, l'homme, lorsqu'il arrive au mariage, se rend compte que la réalité est très différente. On se fait des fausses idées, on a des concepts erronés sur ce qu'est le bonheur. Et la réalité ne correspond pas avec ces concepts et ces fausses idées que l'on a. Les dépenses arrivent. Oui. Les difficultés économiques aussi. Les bas salaires, les écoles à payer, les livres, les vêtements. Tant de dépenses. Les loyers, l'électricité, les téléphones, les gaz, l'eau, les impôts. Et encore plus d'impôts. Tellement de choses, n'est-ce pas? C'est la vie de chaque jour. Eh bien, les enfants arrivent et les enfants grandissent, et avec eux grandissent les dépenses. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les vêtements deviennent de plus en plus chers et les problèmes économiques deviennent de plus en plus grands. Si nous avons la chance d'avoir un partenaire ou une femme qui nous est fidèle, on peut plus ou moins y arriver. Oui, parce que notre femme fidèle nous accompagne dans les bons moments ainsi que dans les moments difficiles. Mais si notre femme nous trompe, alors à quoi sert de vouloir trouver l'argent en travaillant 10 et même 18 heures par jour si on nous trompe? Il n'y a pas une famille et puis y arriver une maison. Bien sûr, il arrive, et c'est rare, que la femme soit fidèle. Mais souvent, nous ne savons pas valoriser cela. L'homme va traîner dehors. Il va chercher d'autres femmes qui lui feront la vie impossible. Il ne verra pas le trésor qu'il a chez lui. Jusque là, nous ne savons pas l'apprécier. Et enfin, de compte, tout se termine dans les souffrances et dans les douleurs. Nous sommes en train de parler d'une façon générale, d'accord? Chacun a sa vie particulière et nous parlons d'une façon générale pour que l'on se rende compte que nous ne connaissons pas le bonheur, d'accord? Nous pourrions connaître le bonheur si on partait d'une base, de quelque chose de solide, mais nous ne l'avons pas. Nous ne parlons pas en contre de l'amour. Non, bien sûr que non, jamais. Car l'amour peut nous transformer véritablement. L'amour peut nous sortir de l'état dans lequel nous sommes. Mais il est très différent de la passion. Il est différent de l'attachement. Il est différent de la luxure. De la luxure extrême que nous connaissons aujourd'hui. Le véritable amour est bien différent de tout cela. Nous parlons des généralités dans leur aspect négatif. Il se passe la même chose avec les jeunes filles qui pensent toujours trouver les princes charmantes. Oui. Et ce prince charmant change avec les époques, les modes, mais on a toujours cette image du prince charmant. C'est lui qui les respectera, les aimera, les donnera sa vie pour elle. Et tout ceci est normal, naturel chez une fille. Mais la réalité des faits, c'est qu'un niveau d'être attire dans notre vie le même niveau d'être. Alors, si nous sommes des diables ou des diablesses, nous allons attirer par notre niveau d'être, par association mécanique, le même niveau d'être que nous, dans l'autre personne, dans notre partenaire. Souvent, beaucoup de femmes qui pensent devenir libres et heureuses en se mariant se retrouvent aux côtés d'un bureau comme mari et ne vivent pas bien. Nous ne trouvons pas, le bonheur que nous recherchons toujours. Il y a beaucoup de violence de nos jours, même si l'on fait beaucoup de communiquer par faire valoir le respect envers les femmes. De communiquer, des lois, etc. Si on ne se rend pas sur la désintégration, sur la base de la désintégration de nos défauts psychologiques, chacun de nous, nous n'allons pas beaucoup avancer sur la fin de la violence. On ne trouve donc pas le bonheur, c'est la réalité. Eh bien, supposons que nous avons un mariage plus ou moins stable, avec des conflits et des discussions, mais normal, régulière. Mais que nous arrivons finalement à vivre, et vivre bien. Nous avons des enfants. Les enfants grandissent, et ils s'en vont de la maison. Très peu sont reconnaissants, la majorité sont très ingrates. Et même s'ils étaient reconnaissants, ils se marient et doivent partir de la maison et faire leur vie. C'est la loi de la vie. Nous ne connaissons donc pas non plus le bonheur. Nous ne savons pas ce qu'il est. Nous ne savons pas où nous devons aller pour trouver le bonheur. L'argent, comme on le disait, ne va pas nous donner le bonheur, non. Souvent, nous luttons dans la vie en travaillant de très nombreuses heures par jour. Et le travail n'est pas une nouvelle chose, non. Il faut travailler intensément pour vivre. Et personne ne dit le contraire, bien sûr. Mais ne pense pas, ne pensez que l'argent, en croyant qu'ainsi, on va trouver le bonheur. Et faisant nos affaires quelquefois, tout va bien. Et nous avons de l'argent, beaucoup d'argent, bien. Mais nous avons aussi beaucoup de problèmes, de difficultés et de anxiétés, des soucis qui sont la conséquence de cet argent, de ce succès, et nous n'arrivons pas à la. Nous ne sommes pas heureux. Nous n'arrivons pas à la bonheur. Quelquefois, nous avons beaucoup d'argent, mais nous sommes très malades par les préoccupations. Il existe beaucoup de personnes qui sont ouvrières et qui sont beaucoup, beaucoup plus heureuses que nous qui avons de l'argent ou que ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent. Parce qu'ils ont la santé. Parce que cette ouvrière a la santé. Et ceux qui ont beaucoup d'argent ne peuvent même pas guérir leur maladie. Donc, l'argent ne va pas non plus nous donner du bonheur. Il faut travailler pour l'obtenir. Mais il faut que l'argent reste moyen pour vivre et non pas un but ou une finalité. Beaucoup d'entre nous avons de nombreux problèmes dans la vie et nous nous réfugions dans l'alcool ou dans les drogues ou dans différentes vies pour essayer de nous échapper de la réalité. Nous ne sommes pas heureux. Nous sommes misérables. Nous souffrons et nous voulons un échappatoire. Et tout ceci. Mais ce n'est pas en nous réfugiant dans les drogues ou en étant esclaves des vices, de l'alcool, que nous pourrons nous échapper de cette douleur. Nous buvons de l'alcool parce que nous voulons oublier. Mais ceci nous emprisonne, rossit les barreaux de la prison dans laquelle nous nous trouvons. Et ne parlons pas des drogues qui, de nos jours, sont la plupart des temps justifiées. Il est incroyable de voir comment l'être humain veut les justifier. Dans la section des questions de la semaine, dans notre website, deux questions ont provoqué un scandale dans la communauté de notre institut culturel Quetzalcoatl. Une d'elles était « Et pourquoi les drogues ne nous mènent nulle part, ni ne nous font pas sortir dans l'astral, et sont contre toute spiritualité ?» Imaginez, il y a eu beaucoup d'étudiants qui réagirent furieux parce qu'ils étaient convaincus qu'avec les drogues, ils allaient arriver à sortir d'un corps astral un jour, et trouver par ces moyens la spiritualité. Mais non. C'est complètement antithétique. Les drogues, qu'elles soient naturelles ou artificielles, peu importe, fortifient grandement les conséquences de l'organe contactivador. Cet organe est l'origine du moi psychologique dans l'être humain. Nous sommes terriblement hypnotisés par cet organe. Voilà la vérité. Alors, aucune justification n'est valable. Chacun peut faire ce qu'il veut, bien sûr. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si des personnes ici veulent continuer à se droguer, eh bien, qu'elles le fassent avec toutes les justifications. Qu'elles continuent. Tout le monde est libre. Fuir les mois n'est pas une bonne solution, mes chers amis. Nous échapper avec les drogues, avec l'alcool, avec les vices, de nos problèmes, fuir les défauts psychologiques à travers la drogue n'est pas la solution. Il veut beaucoup mieux affronter les tarots et les trapper par les cornes avec virilité, avec courage. Nous affronter à ce que nous sommes. Il est évident que l'extérieur n'est que les reflets de l'intérieur. Et tous nos problèmes existent dans notre intérieur. Si nous ne changeons pas intérieurement, nous n'allons pas changer à l'extérieur. Il faut donc attraper le taureau par les cornes et regarder dans notre monde intérieur, découvrir toute la problématique que nous possédons intérieurement, qui nous rend malheureux, qui nous rend la vie amère, les drôles, les ivresses, les vices que nous avons. De nombreux vices peuvent être faciles à voir, comme la cigarette, l'alcool, les drogues, mais d'autres sont plus cachées et sont acceptées par la société. Nous sommes sans arrêt sur l'Internet, abîmant terriblement notre mental, notre capacité de concentration. C'est terrible. Nous les mettons face à des choses dégoûtantes. Dans l'Internet, la pornographie, la violence, la télévision, cette boîte pour idiots, comme on l'appelle, et qui nous sert à servir, nous hypnotise. Voilà où nous en sommes. Bien sûr, et je le répète, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes simplement en train de partager quelques idées. Nous ne critiquons personne. La seule chose que nous voulons réellement, c'est que nous réfléchissons, chers amis, sur le pourquoi ne sommes-nous pas héros aujourd'hui. Si quelqu'un ici est très héros, eh bien, c'est fantastique, nous le félicitons. Mais si quelqu'un souffre, si quelqu'un est rempli de mertons, si quelqu'un a des problèmes, il ne va pas trouver le bonheur dans l'argent, ni dans la passion, ni dans les fêtes, les ivresses ou les vices. Nous allons trouver la solution à cette problématique de la vie et nous confrontons à nous-mêmes, en commençant par nous connaître nos désirs, nos préoccupations, nos anxiétés, nos angoisses, nos problèmes. Pourquoi existent-ils? Quelles sont les causes? Les causes. En découvrant la cause de la douleur, eh bien, nous pourrons nous émanciper et arriver à cet tant désiré bonheur, finalement. Ce bonheur n'appartient pas au temple. Lorsque nous sommes enfants, nous voulons être des adolescentes. Lorsque nous sommes adolescentes, nous voulons être adultes. Et adultes, nous voulons avoir de l'argent et toute maison. Et ensuite, nous devenons vieux. Et nous voulons devenir des enfants. Le bonheur, donc, n'appartient pas au temple. Il est au-delà du temple. La conscience est l'unique chose digne que nous avons, que nous ayons. Et la conscience est amour. La conscience est diligence. La conscience est... C'est un ensemble de vertus, ou de dons, de pouvoirs, de facultés. Tout cela est notre conscience. Lorsque la conscience cesse d'être embouteillée telle qu'il est aujourd'hui, lorsqu'elle se libère de la carapace ou la maintient prisonnière, qui? L'ego psychologique. Alors, lorsque la conscience cesse d'être embouteillée, nous expérimentons le bonheur véritable. Le bonheur, c'est savoir Dieu à l'intérieur de soi, le reconnaître, le connaître, le sentir. Le bonheur, c'est lorsque l'on incarne son propre être intérieur profond. Et oui, nous avons un être intérieur, mais nous ne l'avons pas incarné. Il faut l'incarner. C'est la descente de Kukulkan ou les dieux serpents, les serpents en plume ou Quetzalcoatl sur la terre, représenté dans l'équinoxe du printemps à Chichen Itza, la deuxième arrivée de Jésus. Et c'est la même signification. Le serpent en plume descend du ciel. Cela veut dire que c'est le divin qui descend sur la terre, d'accord? Dans l'être humain, à son intérieur. L'être humain possède un peu de divin et un peu d'humain. Voilà le mystère que nous pouvons expérimenter. Mais cela n'arrive seulement que lorsque l'être humain incarne l'être, et l'être est l'antithèse du moi psychologique. Tant que nous serons l'ego et nous n'allons pas connaître le bonheur. D'accord? Je le répète. Tant que nous serons l'ego et nous n'allons pas connaître le bonheur véritable. L'ego, le moi, le moi-même, nos défauts psychologiques ne connaissent pas le bonheur. Ils ne savent pas ce que le bonheur, en tant que nous le possédons en nous-mêmes, nous n'allons pas expérimenter celle qui s'appelle bonheur. C'est la réalité. Alors l'importance d'identifier, connaître, étudier, méditer et éliminer chacun de nos défauts psychologiques. La liberté est un concept qui n'a pas été compris. Au nom de la liberté, beaucoup d'erreurs ont été commises. On est parti faire la guerre, se battre pour la liberté. Vive la liberté! Il faut être libre, nous disons. Malheureusement, à cause de ces mondes qui ensorcellent, qui fascinent, qui hypnotisent, on a commis beaucoup d'agressions. On se lance dans la guerre. C'est fascinant, ces mondes. La liberté. Ces mondes de liberté apportent beaucoup de confusion. Ces mondes de liberté est incompréhensible pour la raison, pour le mental. Le mental, l'intellect, ne peut pas connaître non plus de liberté. Un de nos problèmes est le mental. Un sage disait, Dieu est si près de nous que seul le mental nous en sépare. Et il avait raison. Notre mental émet de nombreux concepts à propos de la liberté. Si nous demandons à 10 personnes différentes ce qu'est la liberté, elles vont nous donner 10 définitions différentes au sujet de la liberté. Même Emmanuel Kant, philosophe auteur de la critique de la raison pure, et aussi de la critique de la raison pratique, n'a pas pu définir ce qu'est la liberté. La liberté ne peut pas avoir de définition. C'est un mot merveilleux qui nous hypnotise, qui fait que de nombreux endroits dans le monde se sont transformés en champs de bataille, inondés de sang, que se sont soulevés de nombreux drapeaux sous les sortilèges de ces mots « Liberté ». À l'appel de ces mots, beaucoup de ressurgissent pour chercher cette liberté tant souhaitée. Nous les voyons dans tous les peuples qui luttèrent, qui se battèrent et qui arrivèrent à se libérer des pays ou des personnes qui les opprimaient. Mais après avoir obtenu leur indépendance, ils continuaient à être des esclaves. Nous continuons tous à être des esclaves. Auparavant, nous étions des esclaves et aujourd'hui nous sommes des ouvrières. Si nous recherchions à ce que nous vivions en tant qu'esclaves et que nous analysions comment nous vivons en tant qu'ouvrières, eh bien, vraiment, cela ne change pas beaucoup. Nous continuons à être esclaves. Nous continuons à souffrir. Nous continuons à avoir de nombreuses maladies. Nous continuons à avoir des chaînes. Nous n'avons pas obtenu cette fameuse liberté. Liberté. Qui se sent libre, hein? Qui a réussi à obtenir cette liberté? Il y a beaucoup de choses qui nous tiennent impressionnés, enchaînés. Il arrive souvent qu'un adolescent, et lorsqu'on regarde la vie d'un adolescent, il est absurde de voir. Probablement en accord avec la loi du karma, qu'il vit bien, qu'il a des quoi manger, des vêtements, un abri où il peut vivre, des parents aimants, qui lui payent une éducation. Et sous les sortilèges du monde liberté, veut sortir de la maison. Regardez la manière dont il agit. Vous voyez comment est notre psyché, notre mental. On veut faire tout ce dont on a envie. Nous voulons nous émanciper des règles de nos parents et ce qui est incroyable, c'est que nous avons eu du pain, des vêtements, un refuge et une éducation avec nos parents. Payé. Une éducation payée. Mais nous voulons être libres. Nous voulons partir de la maison. Nous voulons suivre ces mots. Liberté! Que celui qui est malheureux paria de la vie, que le misérable pour qui la loi du karma n'a pas été favorable, veuille sortir, se sortir de là. C'est naturel. Qu'il veuille partir de chez lui. C'est normal, il n'y a pas de quoi manger, il souffre. Et qu'il veuille sortir de chez lui, c'est normal, n'est-ce pas? Chercher une meilleure vie. Mais que le petit garçon ou la petite fille à sa maman veuille partir de la maison en recherchant la liberté est complètement absurde. Il ou elle a tout. Alors, mais la liberté est un mode fascinant. Alors, il se monte. Ils font leur vie, mais n'obtiennent pas la liberté. Ils tombent dans un esclavagisme encore plus grave. Il existe des jeunes filles qui ne veulent pas continuer à supporter les exigences de leurs parents et chercher un homme galant et pensent qu'elles vont obtenir la liberté. Passe quelques temps, quelques mois, ou peut-être seulement quelques jours, et elles s'aperçoivent qu'elles ne sont pas libres, qu'elles sont enchaînées à des chaînes bien plus importantes. De même que pour un employé. Nous avons des chefs qui sont insupportables, véritablement insupportables. Très coléreux, grincheux, exigeants, despotes. Et nous voulons devenir libres. Et après avoir travaillé et mis de l'argent de côté, nous montons une affaire et passe un temps, nous nous rendons compte que nous sommes esclaves de notre nouvelle entreprise. Nous ne sommes plus esclaves de notre patron, mais nous devenons esclaves de notre avidité, de nos ambitions, de nos désirs. Et nous continuons à être finalement enchaînés. Alors, qui donc peut dire qu'il est libre? Pour nous donner une idée de ce qu'est la liberté, nous pouvons penser à cette phrase de type oriental très intéressante qui nous dit que la liberté est galoper dans les cerfs. C'est ainsi que disent les sages de l'Inde ostente, ces sages de l'Inde, voulant faire allusion au fait que, en vérité, la liberté ne peut être dépendante des choses. Des choses qui se trouvent à l'extérieur. Elle ne peut pas s'obtenir physiquement et elle ne peut pas s'obtenir physiquement. Par contre, la liberté est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle ne se trouve jamais à l'extérieur. Comment pouvons-nous être libres si notre conscience est embouteillée, si nous sommes emprisonnés psychologiquement, et nous avons de très nombreux prisons à notre intérieur, de très nombreux prisons. Nous avons par exemple, parmi les milliards de prisons intérieures, nous avons la prison du concept de la patrie. Bien sûr, nous devons faire attention à notre patrie, nous devons la défendre. Nous devons faire attention à notre communauté, à notre famille, à notre région. Et personne n'est contre cela. Mais, mes chers amis, ce n'est pas pour cela que nous devons nous sentir plus importantes que notre pays, que notre patrie. Nous pensons souvent, nous appartenons à tel ou tel pays et nous sommes importants. Ou meilleur que tel autre pays, vous voyez. Rien que cela. Cette discrimination que nous faisons par rapport à d'autres pays ou d'autres vies est absurde. Pourquoi dire que nous appartenons à tel endroit plutôt qu'à un autre? Pourquoi les autres endroits ou autres pays seraient-ils inférieurs à nous? Nous sommes orgueilleux de notre pays et nous méprisons les autres pays. Mais ils sont des yeux comme nous. Ils sont un nez comme nous. Du oreille comme nous, du bras comme nous, du jambes comme nous. N'ont-ils pas de sang rouge qui coule dans leurs veines comme nous? Pourquoi nous sentons-nous différents? Ne sont-ils pas aussi coloreux que nous ou orgueilleux comme nous? N'ont-ils pas de la vanité comme nous? Nous sommes tous faits pareils. C'est une prison de la compréhension. Cette manière de penser est nous divisante. Et un pays, et mépriser les autres, c'est une prison du mental. Et nous avons ainsi beaucoup de prisons, des milliards de prisons. L'orgueil est une prison, la cupidité est une autre prison qui maintient notre conscience embouteillée et qui la conduit en vertu de son propre conditionnement. Alors, nous ne sommes pas libres. Tant que nous ne libérons pas notre conscience de chaque agrégat psychologique, tant que cette conscience continue à être embouteillée dans toutes ces bouteilles du moi, nous n'allons pas être libres. Non, notre appétence est son prison. Chaque désir est son prison. Nous voulons des maisons, nous voulons des voitures, les hommes bulles des femmes et les femmes bulles des hommes. Nous avons tous passion animale, de la luxure, de la violence, plusieurs sortes de violence, oui. Nous avons tous de la violence à l'intérieur de nous. Chacun de ces violences, de ces désirs et de ces appétences sont des prisons psychologiques. Ce sont nos prisons. Nous ne sommes pas libres. Nous avons ce moi-même qui n'est pas le seul, car nous avons milliers de moi-même à notre intérieur. Milliers. La doctrine des nombreux moi étudiée par les Égyptiens et les Tibétains est une grande réalité. En vérité, nous ne sommes pas un, mais sommes beaucoup. Nous sommes des milliers. Et comme le disait Virgile, le poète de Mantoue, même si nous avions 1000 langues pour parler, est un palais d'acier, nous n'arriverions pas à énumérer pleinement tous nos défauts psychologiques. Ils sont légion. Une légion était un groupe très nombreux de soldats. Et notre ego est ainsi. Une légion. Nous n'avons aucune liberté. N'importe quel concept que l'on peut annoncer au sujet de la liberté n'est qu'une idée. C'est notre mental qui fait une spéculation. Et ce n'est rien d'autre qu'un rêve, mais ce n'est pas la réalité. Si nous voulons la liberté, nous devons regarder en nous-mêmes entièrement. Nous devons arrêter de nous justifier. Parce que nous avons l'habitude de le faire. Nous sommes notre propre Pilate. Souvenons-nous de Pilate qui a condamné Jésus-Christ et qui s'est ensuite lavé les mains en disant « Je ne suis pas coupable ». Il l'a condamné à mort et s'est ensuite lavé les mains. C'est ainsi. Nous pouvons justifier nos pires vices. Si on s'enivre, c'est parce qu'on est content, parce que notre enfant a terminé ses études. C'est le jour de notre fête et nous sommes très contents. Et il faut fêter cela. Et si nous sommes tristes, nous nous enivrons aussi. Donc, où se trouve la différence? Nous justifions toujours nos vices. Et si nous n'avons pas un vice en particulier, nous en avons un autre. Ce n'est pas comme cela que nous allons trouver la liberté, en continuant, en étant des esclaves, psychologiquement, en parlant. Parlons, chers amis, de la paix. Nous ne connaissons pas non plus quelle est sa signification. Mussolini disait que la paix était une branche d'olivier soutenue par les fils de 10 000 baïonnettes. Vous vous rendez compte de ces paroles dites par un personnage sinistre, un personnage de l'ombre. Il disait que la paix s'obtenait par la violence, par la guerre. Tout cela est absurde. Tout cela est incongru. Cela ne peut pas exister. Mais il y en a qui pensent malgré tout que la paix ne peut s'obtenir que de cette façon. Non, mes amis, la paix ne peut pas s'obtenir avec des organismes dédiés à la paix, comme l'ONU, l'OEA, les traités de paix ou des armes pour la paix, armées pour la paix. Non, on ne peut pas obtenir la paix ainsi. La paix ne peut pas s'obtenir avec des propagandes. On ne va pas obtenir la paix avec des idées, parce que la paix n'appartient pas au mental, parce que la paix est un parfum qui émane de façon naturelle d'un cœur tranquille. Car lorsque le cœur est tranquille, c'est alors qu'émane ce parfum délicieux de la paix. Mais pour cela, nous devons nous convertir en vigiles de nous-mêmes, non pas des autres, non, en faisant de la propagande pour la paix. De nos jours, la propagande pour la paix est très à la mode, et pour bien d'autres choses aussi, mais on n'arrive à rien avec cela. Nous continuons à être toujours les mêmes. Les frontières sont de plus en plus grandes, chers amis. Les guerres continuent à augmenter. Les assassinats se multiplient. On n'obtient pas la paix avec des propagandes, non. La paix est le parfum d'un cœur, mais un cœur tranquille. Il faut se regarder soi-même, se voir soi-même, non pas à travers des fantaisies, parce que l'on se voit généralement à travers un verre et en accord avec les couleurs de celui-ci, on observe le monde. Si le beurre est de couleur, pardon. Si le beurre est de couleur verte, alors on voit le monde tout verte. Si le beurre est de couleur rouge, alors on perçoit le monde avec une tonalité rouge. Nous avons donc des lunettes psychologiques. Et ces lunettes psychologiques ont une couleur, et à travers la couleur de nos idées, de nos concepts erronés, de nos fantasies, nous voyons le monde. Ce n'est pas ainsi que nous allons arriver à la paix. Nous sommes dans une impasse. La paix ne peut s'obtenir avec des idées, des concepts, des propagandes. Tout cela ne sont que des petits points mathématiques dans un grand océan. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la totalité. Pour connaître réellement la paix, nous devons voir les choses dans leur totalité. Complètement, de façon intègre. Mais nous avons des concepts erronés que nous devons éradiquer pour pouvoir expérimenter la paix. La paix n'est pas un but. On pense que la paix, c'est avoir une maison et nous avons toute cette pensée, cette fantaisie. Et nous pensons cela depuis de très nombreuses années. Que la paix, c'est avoir une maison à l'orée d'un bois, dans un endroit fantastique et calme, à côté d'une jolie rivière où nous attendent un prince charmant pour les jeunes filles ou une jolie princesse pour les garçons. Voilà comment nous imaginons la paix. Mais la paix n'est pas une question de fantaisie. La paix, ce n'est pas faire des projets ni des propagandes, car la paix n'appartient pas au mental. On ne peut pas acheter la paix avec de l'argent. Et ce qui est le plus absurde, ce sont de ces armées au nom de la paix. Mais non. La violence engendre encore plus de violence, et de la haine engendre encore plus de haine. Les problèmes de la vie ne vont pas se résoudre avec de la violence, des révoltes ou des coups d'État, car la haine engendre encore plus de haine, et la violence engendre encore plus de violence. Si quelqu'un montre à une autre personne qu'elle fait une erreur, alors celle-là se met en colère et on ne va pas corriger son erreur. Par contre, lorsque la lumière fait un pas en avant, les ténèbres font un pas en arrière. Voilà la façon de combattre les ténèbres, en apportant simplement la lumière, en illuminant les chemins des autres et montrant comment dissoudre l'agrégat psychologique. Voilà une façon de pouvoir obtenir la paix, mais pas avec de la propagande. La paix ne peut pas être conquise. La paix ne peut pas être le résultat de la guerre, parce que les guerres engendrent quoi? Plus de violence, plus de guerre. Et la haine produit encore plus de haine. C'est de la violence. On ne peut pas s'attaquer le mal avec par le mal. Le mal se combat avec le bien, et non pas avec le mal. Il faut voir la paix de façon totale et non pas de façon unilatérale, car ceci ne serait la voir que d'un côté, avec de la propagande pour la paix et avec des armes. Et on n'y arrivera pas ainsi. Il faut voir la paix dans tous ses aspects, dans tous ses côtés. Nous devons commencer par un point essentiel. Et ce point essentiel pour arriver à la paix, ce ne sont pas les masses, mais l'individu lui-même. Parce que les masses ne sont que l'extension de l'individu. Et si l'individu ne change pas, alors les masses ne changeront pas jamais. Quant au gouvernement, il n'est pas que l'extension du peuple. Le peuple n'est que l'extension de l'individu. Si nous, comme individus, sommes avides, le gouvernement va l'être ainsi. Si les individus ont peur, le gouvernement va aussi avoir peur. Et si on combine l'avidité avec les peurs, alors l'étudiant va avoir comme résultat la guerre. Les guerres ont leur cause dans l'avidité, dans l'ambition et dans la peur. À cause de la peur, nous recherchons la sécurité. Et pour se sentir en sécurité, nous achetons quoi? Des armes. Le peuple achète des armes. Le gouvernement en achète aussi. Et si le gouvernement veut exploiter un pays comme un individu exploite un autre individu, alors arrive la guerre. Et nous sommes tous responsables de celle-ci parce que nous avons antérieurement ces situations qui provoquent la guerre. La paix est un concept que nous avons selon nos convenances. C'est la réalité. Il y en a qui pensent que la paix est une personne ne nous dérange plus. Nous voudrions que personne ne nous dérange jamais dans ce que nous faisons. Si nous étions des voleurs, que serait pas pour nous? Qu'il n'y a pas de policières. On pourrait voler tout ce que l'on voudrait sans être dérangé, et le monde serait merveilleux. Si nous étions des contrebandiers, avoir la paix serait de pouvoir passer toute notre contrebande partout sans qu'il y ait des règlements. On aurait la paix et on ferait tout ce qu'on aurait envie de faire, faire ce que notre ambition et notre habilité nous dictaient. Si nous étions des personnes faisant des affaires et prenant les vivres des peuples pour gagner les plus grandes valeurs sur tous les produits et les laissant mourir des femmes, les peuples, on voudrait que personne ne régule rien. On vendrait les produits au prix que l'on voudrait. On affirmerait les peuples et on gagnerait beaucoup d'argent sur la souffrance de l'humanité. Voilà ce que serait la paix pour nous. Voilà les idées que nous faisons sur la paix. Nous sommes ce que nous sommes. Si nous avons les défauts psychologiques très importants, comme ceux de la prostitution par exemple, pour nous, la paix serait d'exploiter les gens, les femmes exploiteraient les hommes, leur voleront leur argent sans que la police n'intervienne et sans que la sécurité de la santé ne leur fasse rien. Voilà. Nous avons tous une idée fantaisiste de la paix, de ce qu'est la paix. Nous luttons tous pour la paix. Mais réellement, nous ne savons pas ce qu'est la paix. Nous sommes remplis de défauts psychologiques et le pire de tout, c'est que l'immense majorité d'entre nous, l'immense majorité de l'humanité, pensons que nous allons très bien, que nous sommes des douceurs igneux. Nous pensons qu'il n'existe personne comme nous. Voilà ce que nous pensons de nous-mêmes. Mais si nous étions ainsi, tel que nous pensons être, le monde serait un paradis. La situation ne serait pas ce que nous vivons en ce moment. Le miroir dans lequel nous devons nous voir comment nous sommes, c'est la société. Si nous n'étions pas luxurieux, avides, orgueilleux, nous vivrions sur Vénus, sur Mars, et non pas ici, sur cette planète Terre. Tous ceux qui vivent sur cette planète ont tous les mêmes patrons psychologiques. Tous ceux qui vivent sur Terre ont les mêmes niveaux d'être. Et ces niveaux d'être attirent notre vie, attirent notre niveau de vie, attirent ce que l'on est. Si nous voulons changer, si nous voulons commencer une transformation psychologique, il faut commencer par reconnaître que nous sommes par découvrir ce qu'il y a dans notre monde intérieur. Prenons par exemple le prix Nobel de la paix. De nombreuses personnes très connues ont réussi à avoir le prix Nobel de la paix et du coup, de ces personnes sont responsables des morts. Ils sont un cimetière dans leur mental et ils sont les prix Nobel de la paix. Quand quelqu'un veut leur faire de l'ombre, ils les font tuer en secret. Cependant, on leur rend les honneurs en leur donnant le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas comme cela que l'on va réussir à avoir la paix. Très différents sont les maîtres, les initiés. Et les maîtres ici dans l'agnose, nous leur donnons par le nom de professeurs. Comme ceux qui apprennent à lire et à écrire. Non, nous ne leur donnons pas le nom de cette manière. Le maître, ici dans l'agnose, a une signification bien plus profonde. Maître est Jésus de Nazareth. Maître est le Bouddha, Quetzalcoatl, ou Hermès, Zoroastre, Krishna. Eux, ce sont des maîtres. Tout au long de l'histoire, ils sont passés dans le monde en enseignant la didactique pour la dissolution du moi. Si on enseigne la didactique pour la dissolution du moi, alors oui, on travaille pour la paix. Lorsque l'on détruit les éléments psychologiques indésirables qui sont la cause de la guerre, alors l'individu se transforme, les masses se transforment, et on arrive à cette paix tant souhaitée. Mais l'unique chose que nous savons faire aujourd'hui, c'est présumer des choses que nous n'avons pas. La seule chose qui nous anime de nos jours, c'est d'avoir des honneurs. Et c'est pour cette raison qu'apparaissent tant d'organismes pour la paix. C'est pour cela qu'apparaissent tellement de propagandes pour la paix. Mais ce n'est pas la solution. La solution est faire ce qu'ont fait les maîtres. Et c'est enseigner à dissoudre. C'est montrer comment détruire ces facteurs psychologiques à notre intérieur qui produisent les guerres. Qui produit les guerres? Les sages mayas ont raison dans les Popol Vuh. Ils décrivent très bien que ce sont ceux qui produisent les guerres. Ce sont les seigneurs de Chivalba qui vivent dans l'inframonde, qui sont les causes de la guerre. Et en vérité, ils avaient raison, les Mayas. De même que les Égyptiens, qui affirmait que les guerres étaient causées par les démons rouges de Seth. Dans l'Inde millénaire, il est écrit dans les Ramayana que ceux qui causent les guerres sont précisément les monstres mangeurs de viande crue dont parlent les Mahabharata, qui ne respectent même pas les Munis, et Ravana, le démon principal des Rakshasas. Mais qui sont donc ceux-là dont parlent les Ramayana et les livres des morts égyptiens et les Popol Vuh des Mayas? Ils sont bien sûr nos défauts psychologiques qui vivent dans l'inframonde, et cet inframonde est notre psyché. Les démons rouges de Seth se trouvent à l'intérieur de nous, mes amis. Ce sont eux qui produisent la guerre. C'est la haine. Et si nous, ils sont notre partenaire, parce que la haine, c'est avoir du ressentiment, est toujours de l'haine. Lorsque l'on se dispute avec son partenaire ou avec ses enfants, ou que nous nous disputons avec nos parents, nous générons du ressentiment, et ce ressentiment impressionne l'amour. Ce ressentiment impressionne la fraternité. Ce ressentiment impressionne l'amitié. Ce ressentiment, c'est de l'haine. Et nous avons beaucoup de haine. Beaucoup de haine en nous. Et c'est ce qui cause la guerre à l'extérieur comme à notre intérieur. Si ce ressentiment dans notre vie entraîne des conflits dans notre foyer, père contre fils, fils contre père, époux contre épouse, voisin contre voisin, employé contre patron, élevé contre professeur à l'école, eh bien, cela va produire des guerres parmi les pays. Dans les peuples, nous ressentons de l'haine et nous la passons à un autre qui a aussi de l'haine et les émotions s'intensifient. Deux personnes ont de l'haine, ensuite quatre, ensuite huit, et finalement, tout le monde ressent de l'haine. Alors, nous entrons en guerre. Il y a des confrontations. Et en ce qui concerne l'avidité, c'est pareil. Les frères se battent à cause de leur avidité. Si par exemple, un père ne laisse pas un héritage équitable à chacun, regardez les désastres qui s'ensuit. Voilà que ces frères qui s'entendent bien, qui ne s'étaient jamais disputés, alors s'affrontent dans des procès interminables qui peuvent durer des années. Et il arrive même à ce qu'ils se tuent entre eux, par un héritage. C'est l'avidité qui nous mène à tout cela. Et si cette avidité existe chez les uns et chez les autres, si cette avidité existe dans les peuples, alors ils se battront, comme ces frères qui se battent entre eux. Des pays se battent contre d'autres pays, parce que les uns ont du pétrole et pas les autres, parce qu'ils ont de l'eau ou de bois et pas les autres. Alors les conflits et les problèmes arrivent. Et l'envie, c'est la même chose. Nous aimions ces compagnons qui ont plus de capacité intellectuelle que nous dans le travail. On envie cet élève qui a plus de capacité que nous à l'école. Et finalement, l'envie n'est-elle pas la sœur de la trahison? Est-ce que l'envie et la trahison ne vont-elles pas de pair? Alors, s'ensuivent des conflits et des problèmes. Et la jalousie? N'en parlons pas. Comme disait Salomon, la jalousie est pire que les tombeaux. La jalousie est pire que les crocs d'un chien enragé. Dans un couple, la jalousie n'est pas l'amour. Regardez combien de conflits elle génère. Et il n'y a pas que la jalousie passionnelle. Il y a des jalousies religieuses, oui. On remarque que cette religion a plus d'adeptes que la nôtre. Et cela nous énerve. Et tout cela produit de la violence à cause de la jalousie religieuse. Il y a des jalousies politiques aussi, bien sûr. Des jalousies professionnelles. L'esprit d'acquisition, l'ambition, la colère, l'orgueil. Ce sont tous des facteurs qui produisent les guerres, qui en sont les causes, et nous les savons tous. Comment pouvons-nous contribuer à la paix dans le monde? Eh bien, en reconnaissant et en éliminant tous ces facteurs responsables des guerres. Non pas en les justifiant, non pas en pensant que nous sommes de belles colombes, mais en reconnaissant ce que nous sommes vraiment, en retrouvant cette beauté intérieure. La beauté intérieure a toujours été recherchée dans tous les temps. La beauté extérieure est à la mode de nos jours, mais la beauté intérieure est très intéressante, parce que cette beauté intérieure nous mène à la paix extérieure, puisqu'elle existe à l'intérieur. Voilà quelle est la réalité. Lorsque nous découvrons ces facteurs qui produisent les guerres, lorsque l'on découvre la colère, cette colère qui nous fait casser de la vaisselle parce que nous sommes énervés, cette colère qui fait que nous détruisons tout sur notre passage en ayant des mauvaises paroles, des mauvaises regards, en ironisant. Il faut la détruire. Quand nous détruisons ces facteurs psychologiques, alors naît de la beauté intérieure. Nous devons récupérer cette innocence, de nouveau-né. Cette innocence qui va nous permettre d'avoir une beauté spirituelle. Oui, récupérer cette sensibilité. Oui, nous devons ressentir cette beauté de la nature, ou bien être capable de ressentir la souffrance d'un chien qui meurt de faim sur les bords de la route. Nous devons ressentir la joie dans les chants d'un oiseau qui nous enchante de par ses belles couleurs, son chant et son... Pardon. Son embol. On peut aussi ressentir de la tristesse, bien sûr, de la douleur pour le paysan qui arrose les sillons avec la sueur de son front. Nous devons reconquérir cette innocence, mais seulement si nous nous confrontons à nous-mêmes, nous devons corriger toute notre vie. Nous devons retrouver la valeur de l'amitié. Nous n'avons aujourd'hui que des amis pour écouter notre chanson psychologique, nos souffrances, nos peines. Et lorsqu'ils ne veulent plus nous écouter, eh bien, nous recherchons quelqu'un d'autre. Cela n'a pas de l'amitié. Cette amitié qui s'étise dans les problèmes de la vie n'existe plus. Il faut la retrouver. Il faut ressentir ses amis comme des frères. Nous devons aussi découvrir les parfums de la courtoisie. Il n'y a plus de sincérité dans nos paroles. Nos paroles devraient être pleine de ces parfums de la sincérité. Nous avons besoin de retrouver la bonté. Nous avons besoin d'écouter de la bonne musique. Nous avons besoin de nous éloigner de cette musique vulgaire et violente, de cette musique qui incite notre centre émotionnel et de commettre des actes indignes. Il faut que nous reconnaissions l'art véritable. C'est-à-dire, nous devons changer notre façon de penser, de sentir et de faire. Lorsque l'on change sa façon de penser, de ressentir, d'agir, lorsque l'on reconquitte l'innocence, lorsque l'on apprend à être simple véritablement, lorsque l'on est capable, par exemple, d'arroser un arbre, alors que personne ne le demande, et parce que les voisins ne le font pas. Va-t-on laisser cet arbre mourir? Lorsque nous sommes capables de faire les choses sans qu'on ne le demande, alors, nous serons sur le chemin de retrouver cette paix. La paix est une substance atomique. Une substance atomique qui vient des entrailles de l'absolu, que nous pourrions manifester seulement si notre cœur est tranquille. Quand notre cœur est libre de toute appétence et de désir, quand il est libre de haine et de ressentiment, lorsqu'il est libre d'ambition et d'avidité, alors il est tranquille. Voilà mes chers amis, c'était notre conférence d'aujourd'hui sur le bonheur, la liberté et la paix. Nous vous recommandons d'étudier les thèmes du bonheur, de la liberté et de la paix dans le livre La Grande Rébellion. Il se trouve sur notre website www.samaelnosis.net. Bien sûr, dans la section des livres, et nous l'avons en plusieurs formats pour les télécharger et étudier dans nos dispositifs. Pour nous-mêmes, pour reconquérir notre beauté intérieure, il faut utiliser la technologie de manière transcendantale. Lorsque vous allez vous promener au parc, vous pourrez écouter ou lire les livres de la Grande Rébellion. Dans le livre « L'éducation fondamentale », vous allez trouver les chapitres concernant la paix. C'est très intéressant. Et dans le livre « La transformation sociale de l'humanité », qui est aussi sur notre website, vous pourrez trouver les chapitres sur la paix aussi. De cette façon, vous comprendrez mieux toutes ces dont nous avons parlé aujourd'hui. Chers amis, c'est notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. À bientôt.